Matière à penser, René Friedman.
Voilà, vous êtes sur France Culture, Matière à penser, une émission de René Friedman en partenariat avec le quotidien du médecin, et nous entamons ce soir une série sur la modernisation du système de santé. Donc nous allons aborder plusieurs thèmes, particulièrement ce soir le thème du numérique en santé, révolution ou contrainte. Nous allons voir ça avec Madame Céline Vignier. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes diplômée de Sciences Po de Paris, vous êtes ancienne directrice d'un hôpital, vous avez une expérience professionnelle dans un cabinet ministériel, vous avez été aussi directrice d'une agence régionale, enfin directrice ou co-directrice d'une agence régionale de santé. Et aujourd'hui, vous êtes responsable du groupement des médecins privés, donc vous avez une vue...
D'ensemble, du système de santé.
Donc c'est très intéressant, merci d'être là. Mathias Dufour, vous êtes un ancien collaborateur du ministre de la Santé et des Sports. Vous êtes fondateur du groupe du Xinjiang qu'on appelle le plus important, c'est
tout
vous qui
fait.
Avez choisi le nom, et qui est un accélérateur d'idées dont nous allons pas mal débattre. Tous les trois d'ailleurs, vous êtes actifs avec d'autres dans ce groupe.
C'est le plus important.
Et nous avons Jean-Philippe Allozy, qui est également sorti de Sciences Po et qui est un ancien collaborateur au ministère des Handicapés. Et donc, nous allons aborder ce Xinjiang, qui s'appelle donc le plus important.
Tout à fait.
Créé donc par vous, Mathias Dufour, il y a quoi, il y a deux
ans? Un an et demi.
Ouais, c'est tout frais.
Tout à fait.
Alors, pourquoi?
Ben écoutez, entre le Brexit, l'élection de Trump et la vague populiste en Europe, on s'est dit qu'il y avait quelque chose de grave qui se passait, que nos concitoyens étaient inquiets et qu'en particulier, il était important de répondre à leurs problèmes de fond, à l'insécurité économique liée à l'aggravation des inégalités entre la France mondialisée d'un côté et puis le reste de la population qui a plus de mal à se projeter dans l'avenir. Et le plus important, c'est la mobilisation d'un collectif citoyen pour... aider les gens peu qualifiés à se projeter mieux dans l'avenir en investissant en fait dans développant leurs compétences, leurs capacités à travers d'une part des propositions de politique publique sur comment
vous êtes vraiment centré sur la politique publique.
Alors on a deux axes, on a ce qu'on appelle un think tank classique et il fait des propositions de politique publique les plus concrètes possibles sur comment réorienter les politiques publiques vers cette priorité du développement des capacités et des compétences des gens peu qualifiés pour les aider à trouver leur place dans...
Diminuer la fracture.
Exactement. Et diminuer la fracture en développant les compétences et les qualifications des gens.
Vous avez un point de vue assez large, des différents types de professions, et justement. Mais là, on va se centrer, bien sûr, sur la santé.
Évidemment.
Et d'ailleurs, vous avez publié une tribune dans Le Monde, dans le journal Le Monde, Révolution numérique et professionnelle de santé. Donc, c'est le thème, bien sûr, qui nous permet de nous réunir aujourd'hui. Et je vois d'ailleurs que vous avez été reçu par le Comité national d'éthique l'année dernière en tant que formation. Et j'aimerais bien savoir de quoi vous avez parlé. Est-ce que vous avez parlé justement du numérique?
Alors, on a parlé de l'impact des disruptions technologiques, non seulement du numérique, mais aussi
Mathias
de la robotique.
Dufour.
Et de l'intelligence artificielle sur les professionnels de santé, parce qu'on parle beaucoup de tech en santé, mais qu'est-ce que ça change pour les pratiques des professionnels, pour leur parcours de carrière, pour les compétences dont ils ont besoin, pour leurs besoins en formation? C'est des sujets qui sont pas suffisamment abordés et on a constaté que les pouvoirs publics manquaient de visibilité et du coup
Mais pourquoi l'éthique? C'est ça que je veux dire.
Pourquoi l'éthique?
Pourquoi le comité d'éthique? Quels sont les sujets éthiques?
Tout ce qui touche aux algorithmes qui peuvent et qui aident à la prise de décision, mais qui peuvent aussi embarquer des biais dans la prise de décision, peuvent confronter les professionnels à des problèmes auxquels ils ne sont pas forcément confrontés aujourd'hui, ou là ils sont plus autonomes dans la prise de décision.
En fait, ce qu'on dit, c'est que les données qui sont accumulées et qui servent peut-être à développer des lignes de conduite, des traitements, des pronostics en santé, c'est ça le grand, on va y revenir, peuvent aussi avoir des dérives, c'est ce que vous voulez dire.
Des dérives et puis des nouvelles questions qui se posent, parce qu'aujourd'hui on est capable, par exemple, par rapport à l'analyse des images, par exemple, l'analyse aussi des du génome, on peut aller très loin dans la compréhension, dans l'analyse d'un patient et découvrir des choses, des pathologies qu'on n'avait pas décidé de cibler au départ.
D'accord, donc vous voulez dire, c'est comment donner ces informations qui n'étaient pas attendues.
Exactement. Et le professionnel, il peut se sentir dans une position un peu déroutante de se dire, je découvre des pathologies, qu'est-ce que je fais avec les informations que la machine, que l'intelligence artificielle m'a permis de recueillir et qui n'étaient pas celles que je cherchais initialement. Et donc, ça pose aussi des questions éthiques à cet égard.
Alors, non, c'est intéressant parce qu'en plus, Jean-François Delfrécy, qui est le président du comité éthique, va venir dans la suite de nos émissions. On va pouvoir rebondir de son point de vue. Voilà. Mais vous avez cité trois mots, effectivement, importants, et vous avez d'ailleurs fait un colloque il y a peu de temps, en février de cette année, le numérique, la robotique et l'intelligence artificielle. Et c'est vrai que le Quidam, je dirais, se promène un peu fait pas la différence forcément entre les gadgets, ce que j'ai appelé qu'on trouve sur iPhone, dont on va discuter un instant, et puis une véritable révolution qui est en train de se passer, peut-être, en santé. Et Céline Vignier, j'aimerais que vous centriez justement comment vous voyez, vous qui avez une vision un peu du territoire de santé, public, privé, qu'est-ce qui va être bouleversé? Les robots, la numérique, l'intelligence artificielle, tout ça?
C'est un ensemble, en fait. On perçoit déjà en fait une profonde transformation grâce à la numérisation des pratiques en tant que telles des professionnels et des impacts organisationnels majeurs. On voit en fait se développer énormément d'applications pour aider les professionnels effectivement dans les prises à la décision. Donc c'est des aides concrètes en fait, mais qui ne remplacent pas en fait la compétence médicale ou le savoir-faire en fait non médical. Je pense que ça c'est un message important. Mais on voit surtout en fait qu'on a au travers de ces nouvelles technologies, de ces nouvelles techniques en fait un impact organisationnel fort. On le voit déjà au travers un petit peu de la télémédecine qui commence à se développer, mais très petitement. Et on voit que les professionnels ne sont pas forcément préparés, en fait, à aussi faire évoluer les organisations par rapport à ces nouvelles techniques. C'est un nouveau jeu, c'est un nouveau sens, ça change les pratiques. Par exemple, on voit aussi avec les objets connectés. Auparavant, on suivait en fait un insuffisant cardiaque tous les 6 mois. Aujourd'hui, avec un objet connecté, on va avoir en fait une vision au jour le jour de ces données, et ça change en fait le travail médical. Travail médical potentiellement en fait qui va s'appuyer davantage sur l'analyse faite par le personnel non médical, qui va d'abord faire un premier tri de ces données pour ensuite permettre l'alerte par le médecin. Mais on voit bien qu'on a un changement complet en fait du travail par exemple du médecin généraliste, et ça va en fait s'accentuer parce que ça va se généraliser dans les années à venir. Et c'est tout l'objet de l'étude qu'on a pu faire quantitative, d'essayer d'évaluer en différenciant en fait suivant les professionnels de santé et les professions de santé médicales ou non médicales, quel va être l'impact sur le temps libéré des professions de santé, comment ces métiers en fait vont évoluer et comment on les accompagne dans ces nouveaux métiers. Parce que ça, c'est un élément fondamental. On voit par exemple qu'on a un plan virage numérique, qui est une bonne chose, puisque là, on a vraiment une prise en main, on va dire, institutionnelle pour donner des nouvelles orientations. Mais l'enjeu, c'est aussi en fait accompagner en fait les professionnels de santé. Moi, je vois bien au quotidien, en fait, auprès des médecins libéraux, par exemple, ça interroge, en fait, ça les interroge. Et ils ont du mal à savoir comment s'emparer, finalement, comment maîtriser, en fait, l'ensemble de ces nouvelles techniques et comment adapter leurs organisations à ces nouvelles techniques. Et ça, si on n'accompagne pas les professionnels de santé, on ne va pas finalement vraiment saisir le virage numérique et ses opportunités.
Alors, ce qui est clair, c'est que les changements du mode d'exercice de la médecine, qui sont sous-jacents avec ce que vous venez de dire, va retentir bien sûr chez le patient. Et du coup, donc c'est pour ça que c'est intéressant de voir quand on voit l'un, c'est-à-dire qu'est-ce qui évolue pour le professionnel de santé, on voit aussi ce qui évolue bien pour sûr. Le patient, qui peut-être, on va venir justement sur la télémédecine, qui peut être moins isolé, certains qui le sont. On parle bien sûr des personnes âgées dans les EHPAD qui ont du mal à se déplacer, à avoir un rendez-vous avec le spécialiste, et donc des possibilités de télémédecine. Donc chaque point, il y a des avantages et des inconvénients. Je voudrais qu'on va les discuter point par point pour donner du concret à notre échange. Mais ce que je veux dire surtout, c'est que on peut pas parler des professionnels de santé sans penser aux patients, ni parler des patients sans parler des professionnels de santé. Et vous-même, Céline Vignier, qui avait été, en tous les cas, dans l'ARS, qui est l'Agence régionale de santé, et vous êtes intervenue sur les territoires de santé. Et je pense que ça aussi, ça va modifier complètement, non seulement la pratique personnelle du patient, la pratique personnelle du médecin ou du corps infirmier, mais aussi l'organisation même de la santé.
Complètement. Mais ce qui est frappant, en fait, c'est que, par exemple, si on prend toujours l'exemple de la télémédecine, même si c'est aujourd'hui, en fait, ça peine quand même à se développer. L'assurance maladie a reconnu les remboursements.
C'est pas gagné. Hein,
c'est pas gagné. Aujourd'hui, en fait, à un an, il y a 7900 consultations, en fait, remboursées au titre de la télémédecine.
Pourquoi il y a des réticences comme ça?
Mais parce que aussi, en fait, c'est un sujet, en fait, de compétence des professionnels de santé eux-mêmes. Et c'est pour ça, en fait.
C'est là où vous intervenez.
Exactement. Nous, ce qu'on essaie, en fait, de porter aussi, c'est que pour les professionnels de santé s'emparent de ces nouveaux outils, quels qu'ils soient, intelligence artificielle, robotisation, il faut qu'ils aient les compétences. Et pour avoir les compétences, il faut changer les formations. Il faut changer les critères de sélection. Moi, je suis frappée de voir que ce qui gêne aujourd'hui, par exemple, les professionnels de santé libéraux, c'est l'absence, tout bêtement, en fait, de techniques de gestion de projet, de capacité, finalement, à organiser différemment la coordination des soins sur les territoires. Et ça, c'est un vrai frein.
Il faut former les formateurs, parce que qui est formé pour ça? Alors, Jean-Philippe Allozy.
Non, je voulais dire, c'est très illustratif du postulat à partir duquel on est parti. C'est que c'est un progrès pour le patient. La télémédecine, vous le disiez, ça permet de rapprocher le soin du patient. Le patient qui est isolé au milieu de la campagne, qui a plus de médecin à proximité, il peut avoir, grâce à la télémédecine, accès à un médecin. Mais pour que ça soit possible, il faut que le médecin lui-même soit prêt et soit prêt préparé à se servir de cette technologie. Et donc vraiment, le progrès n'arrivera aux patients que si on forme les soignants, les médecins, les professionnels de santé dans leur ensemble, à l'utilisation de ces outils.
Alors la télémédecine, il faut quand même se connaître. On ne va pas faire une médecine télémédecine sans s'être vu.
On peut se voir déjà avec la télémédecine. Hein. Vous avez des caméras, donc on n'est pas. Et après, là, il faut justement apprendre un nouveau rapport soignant-soigné avec ces nouveaux outils. Mais ça peut perturber aussi le professionnel de santé qui n'a pas été formé à ça, qui lui a appris sa pratique, les cours de médecine qu'il a fait, c'était en manipulation directe, la palpation, etc. Et donc toutes ces nouvelles manières d'exercer, elles doivent pouvoir être préparées avant, et le professionnel doit pouvoir être adapté, s'adapter à ces nouveaux exercices.
Et pour rebondir sur ce que vient de dire Jean-Philippe, nous on a fait une petite étude pour essayer d'anticiper quel était le temps potentiellement libéré par les technologies. Donc il y a à la fois le numérique, la robotique et l'intelligence artificielle. Le numérique facilite les flux de données, l'intelligence artificielle ajoute une couche d'intelligence, et la robotique est plus pour les flux physiques, simplifier les flux physiques de manière extrêmement schématique. Et on s'aperçoit que à horizon 2030, il y a entre 30 et 50% suivant les professions de santé, 30 à 50% du temps qui peut être libéré par ces technologies. Mais tout ça va dépendre du taux d'adoption. Si les professionnels ne s'en emparent pas, ça ne va pas se passer. Et donc, l'essentiel, dans les années à venir, ça va être comment faciliter cette adoption par les professionnels. Mais et ça ne se passera que s'ils sont formés, que s'ils ont confiance, confiance dans le fait que ces technologies sont utiles pour le patient et pour eux, s'ils ont confiance dans le fait que leur rôle ne va pas être bouleversé, mais qu'ils se projettent toujours positivement dans l'avenir. Et aussi s'ils ont des incitations positives, voilà, à le faire.
Et alors, on peut dire d'ailleurs que, parce que pour reprendre le point du temps libéré, ça marchera aussi si ils considèrent que ce temps libéré, c'est pas de la réduction de leur travail, mais que c'est du temps libéré pour faire autre chose ou pour mieux faire certaines choses. Le médecin, il a besoin d'avoir du temps d'échange avec le patient, et donc ça peut libérer du temps pour mieux faire ces tâches-là, pour plus avoir le temps de s'occuper du patient, parce qu'on a libéré certaines tâches par les outils technologiques. Donc c'est aussi de rassurer les professionnels sur le fait que temps libéré signifie une augmentation peut-être de leur métier, de la valeur ajoutée qu'ils peuvent apporter aux patients. Que ça soit des médecins ou d'autres professionnels de santé, et que c'est un temps positif et c'est un bénéfice pour eux.
Ça, c'est la version positive, on va dire, des choses qu'il faut promouvoir. Néanmoins, vous avez justement des oppositions. Alors, qu'est-ce que vous voyez en face de vous quand vous abordez ces questions chez les professionnels, justement, comme opposition? C'est une vignée.
Les oppositions, elles sont multiples. En fait, on voit bien que les professionnels aujourd'hui, ils sont dans un espèce de tube. Ils sont avant tout aussi, en fait, ils se consacrent avant tout en fait, à leur pratique, et ils ont un peu de mal, en fait, à prendre le recul nécessaire, justement, pour penser ces réorganisations et voir le bénéfice attendu, en fait, de cette numérisation et de ces nouvelles techniques. Et tout l'enjeu, en fait, c'est de permettre cette transition qui, effectivement, passe vraiment, enfin, par la formation, c'est évident, et par leur faciliter un peu la tâche au quotidien, leur apporter, en fait, un peu les outils un peu prémâchés pour qu'ils se les approprient plus rapidement.
Enfin, il y a une volonté gouvernementale, hein, puisque c'est inscrit dans la loi 2022, ce virage numérique hein, qu'on appelle comme ça. Et donc, il y a la possibilité d'une vraie mise en œuvre. Cependant, c'est vrai que quand je regarde l'histoire du dossier médicalisé, qui est formidable en théorie.
Dossier médical personnel.
Personnel, qui est accessible donc partout, qui devrait être accessible et tenu à jour par tous les acteurs de santé. C'est vrai que c'est une source de sécurité importante, mais ça fait 15 ans que ça pédale dans la choucroute, pour parler trivial.
Il y a des craintes de la part
Mathias Dufour.
Il y a le fait de réduire que l'asymétrie d'information entre le professionnel et le patient, qui est un peu une des bases de l'assise médicale, soit réduite avec un accès plus facile de l'information au patient. Il y a aussi le fait de donner plus de transparence, les technologies, le numérique donnent plus de transparence sur ce que fait chaque professionnel, et donc la possibilité d'être jugé par ses pairs, jugé par les patients. Donc ça peut susciter des inquiétudes, et ça c'est pas des choses qui sont faciles à lever.
Et un des points qu'on met en avant dans le rapport qu'on a fait,
Jean-Philippe,
c'est aussi toute la représentation du métier, parce qu'en fait ça vient bouleverser aussi une façon dont chacun s'engage dans ces carrières-là, ces carrières de professionnels de santé, avec une vision du métier et qui peut être remise en cause par ces technologies auxquelles on n'est pas préparé. Il y a beaucoup de compagnonnage, mais on est formé par des plus anciens que soi qui vous expliquent la pratique, etc. Donc il y a vraiment une espèce de...
J'ai vu d'ailleurs que dans votre séminaire, là, vous proposez un renversement. C'est-à-dire que c'est les jeunes qui apprennent aux plus âgés et non pas les âgés qui apprennent aux jeunes.
Oui, parce que le plus âgé, il a l'expérience, il a vu plusieurs situations, il sait analyser des situations, mais le plus jeune, il peut être plus à l'aise avec des nouvelles technologies, avec l'utilisation d'applications, avec la saisie de dossiers sur un ordinateur plutôt que sur un dossier papier. Utiliser une machine, c'est plus intuitif, on le connaît tous avec un téléphone portable, on voit qu'un enfant s'en sert quasiment mieux que ce que ses parents. Et là, c'est la même chose, c'est les plus jeunes plus agiles avec des technologies pourraient contribuer aussi à l'acquisition de nouvelles compétences par les...
Alors, il ne s'agit pas de remplacer le compagnonnage par le mentoring inversé, il s'agit de compléter par le mentoring inversé.
Mais j'ai vu que, toujours dans ce séminaire donc du 7 février, parce que j'ai lu attentivement le programme et j'ai regretté de ne pas y aller, vous proposez en première partie de transformer le modèle de recrutement et de formation. Oui. Alors ça c'est un truc un peu à venir, ça va demander un peu de temps. Et est-ce que vous avez le soutien des facultés de médecine pour entamer cela?
Bah, déjà, on a eu le plaisir d'accueillir justement pendant pour notre séminaire
que vous évoquiez
en introduction, on avait Jean Sibilia, donc le président de la conférence des doyens, qui est venu indiquer tout l'intérêt qu'il voyait aux travaux, à la réflexion qui était conduite de l'adaptation des professionnels à un monde qui change et à des nouvelles technologies pour l'exercice de la médecine. Et après, on peut constater que le projet de loi de santé fait des pas dans cette direction-là. Nous, on considère qu'on pourrait aller plus loin. Mais pour autant, il y a quand même toute la révision des études, le mélange des compétences, l'introduction de compétences en sciences sociales, en mathématiques, dans les formations des médecins, ça participe de cette idée. Donc, quelque part, le constat qu'on a fait de dire il y a des compétences qui manquent, qu'il faudrait ajouter à la formation des médecins, elle est déjà un peu prise en compte. Après, il y a une question qui est aussi une question de temporalité, c'est-à-dire que les études, notamment pour les études de médecine, mais on ne parle pas que des médecins dans notre rapport, mais c'est des études qui sont très longues, et on voit que la technologie, ça va très très vite. Et donc il y a un moment où des études très longues et pour préparer un exercice qui sera profondément bouleversé par une technologie qui elle va très vite, il y a un moment où il y a un peu un hiatus. Donc une des propositions qu'on faisait, c'était de revoir les temporalités aussi des formations pour pouvoir mettre plus d'accent sur l'adaptation
et de la formation continue
plutôt que de la très longue formation initiale, puisqu'après à la fin on se retrouve avec on est formé mais un métier qui est plus exactement celui pour lequel on a été formé.
Mathias Dufour.
Vous nous posiez la question, René Friedman, du soutien que nous pouvions avoir. En fait, systématiquement, quand le plus important fait des propositions, on les met dans le débat public. Et là, on a eu plusieurs centaines de réponses à l'enquête qu'on a pu mener sur ces propositions qu'on a pu faire. Et oui, il y a un soutien relativement fort, sauf sur la question de la réduction de la durée des études médicales, qui est un sujet plus clivant. On n'a que la moitié des gens qui sont favorables, l'autre moitié qui n'est pas favorable, sur toutes les autres propositions, qui est recentrer les critères de recrutement sur la créativité, l'empathie, la recherche et l'analyse critique d'information, le travail avec les machines, le travail collaboratif. Ça, par exemple, c'est une proposition qui a beaucoup de soutien. Le fait, comme vous le soulignez tout à l'heure, de déployer un programme d'accompagnement des enseignants et des formateurs actuels pour les adapter, parce que forcément, il faut qu'ils forment au métier de demain. Et ils sont pas forcément eux-mêmes adaptés aujourd'hui. Le fait de diversifier aussi les sources de recrutement, à la fois au niveau des études de médecine et en cours de carrière, pour faciliter l'intégration de profils externes dans le monde de la santé, ça c'est des idées qui ont beaucoup de soutien.
Oui, non, mais on voit bien. On va reprendre après la pause musicale. On va reprendre un petit peu quelques points concrets pour que on puisse suivre, que ce soit la prise de rendez-vous, par exemple en ligne, que ce soit bien sûr le télésoin. Je voudrais qu'on revienne dessus, et puis surtout qu'on parle de cette mainmise ou pas des big data servant donc à la future santé publique. On va en discuter dans un instant.
No other love. Find with you every time, no other lips could want you more, for I was born. Stars burn out above you, till the moon is but a silver shell. No other love, let no other love know the wonder of your spell.
Matière à penser, René Friedman.
Alors, nous sommes sur France Culture, modernisation du système de santé. Nous avons trois invités éminents, Céline Vignier, Mathias Dufour et Jean-Philippe Allozy, pour nous éclairer sur ce virage numérique qui se pointe avec force dans l'évolution de la médecine, les conséquences pour les patients, les conséquences pour les professionnels de santé, les conséquences pour l'organisation générale de la santé, quand je vois que même les psychanalystes ont fait une réunion de travail sur la santé connectée et la psychanalyse, les pharmaciens ont fait des réunions pour voir sur la traçabilité, bien sûr, qui va entrer de plus en plus en ligne de compte de chaque médicament, et non pas des lots de médicaments, et pour les médecins, avec donc différentes approches, des approches santé publique, des approches thérapeutiques, des approches plus de recherche, hein, puisque que c'est sûr que cette possibilité d'avoir aussi bien donc le numérique, la robotisation, l'intelligence artificielle. D'ailleurs, je renvoie aussi à un livre publié par CNRS Éditions sous la direction de Bernard Nordlinger et Cédric Villani sur santé et intelligence artificielle, ce qui montre bien que voilà, tout ça est en train de bouger. Et vous êtes donc dans cette association, cette formation le plus important, à la pointe de tout cela. Tellement à la pointe que vous avez choisi une musique superbe qui s'appelle No Other Love. Donc ça veut dire quoi? Que vous n'aimez que le numérique?
au contraire, il y a beaucoup de craintes par rapport aux machines et à la place qu'elles pourraient remplacer les humains. Et on voit à travers cette musique qui est absolument somptueuse, elle est irrémédiablement humaine et il ne faut pas avoir peur de laisser aux machines ce qu'elles font mieux que nous. Le calcul, l'analyse, elles le font mieux que nous. En revanche, il y a tellement de choses à faire sur l'humain qui sont indépassables et donc focalisons-nous là-dessus.
De toute façon, toute innovation comporte toujours un risque, c'est jamais du 100%. Donc que l'on soit vigilant, qu'on veuille accepter une innovation et qu'on veuille être vigilant, c'est normal. Regardez, prenons même Doctissimo, là, qui est quand même une des licornes françaises, hein, c'est-à-dire qui est en train de prendre de l'importance financière. C'est effectivement, c'est adopté par les patients de pouvoir prendre un rendez-vous en ligne, de savoir quand est-ce qu'on va avoir son... Et pour le médecin, s'il le fait, parce qu'il a moins de lapins, comme on dit, hein. C'est-à-dire que des rendez-vous, on envoie automatiquement un petit mot en disant « vous venez bien demain, si vous ne répondez pas, quick ». Mais en même temps, c'est une masse d'informations qui pourrait être utilisée, d'abord parce que aujourd'hui il y a peut-être un point de vue éthique qui règle la façon de faire, mais demain ça peut être acheté, et par des gens qui siègent très loin de notre façon de voir. Et c'est des informations qui pourraient être diffusées, utilisées en tous les cas. Donc comment faire ? Céline Vigné qui acquiesçait à ce que je dis.
J'acquiesce surtout en fait sur l'inquiétude des médecins en fait par rapport au devenir en fait des données et la façon dont elles sont protégées. Donc ça c'est vrai que ça fait partie aussi des orientations comment on lit dans le virage numérique. Mais ça c'est une vraie préoccupation pour l'avenir. En même temps c'est une opportunité parce que c'est la possibilité aussi d'avoir des bases de données complémentaires pour nourrir l'intelligence artificielle et donc pouvoir faire plus de prospectives, pouvoir plus anticiper aussi les besoins des patients et des organisations.
Et c'est vrai qu'on est dans un sujet qui dépasse largement la santé, c'est le sujet de la donnée personnelle et qui vaut pour toute utilisation de systèmes numériques.
Jean-Philippe Palosi.
Il y a vraiment des enjeux d'encadrement, de réglementation. Il y a le règlement européen sur la gestion et la protection des données personnelles. Et donc là, on est dans une situation encore plus particulière parce que ce sont des données de santé. Mais déjà, il y a toute la réglementation autour de la donnée personnelle. Et après, effectivement, il y a aussi une éducation du patient. Parce qu'à un moment, ça brouille un peu les frontières, le numérique. C'est-à-dire qu'on ne sait plus, vous parliez tout à l'heure des données qu'on a sur son iPhone, sur un objet connecté, etc. On rentre dans de la donnée de santé sans avoir l'impression qu'on est rentré dans de la donnée de santé. Donc il faut aussi éduquer le patient à ce qu'il communique. Il faut aussi garantir et s'assurer que tous les consentements sont bien organisés et prévus. Après, comme disait Céline, c'est une chance incroyable pour le système parce qu'on a une capacité d'analyse et de prévision, de prédiction d'un certain nombre de pathologies, de risques pour la population qui sont décuplés. Voilà. Après, il y a comme toute donnée qui circule, il y a des réglementations à faire et de la protection à assurer.
Oui, pour parler concrètement, si on avait analysé les données, les big data, à un moment donné, on aurait pu voir que tel médicament, pour ne pas le citer le médiateur, était responsable de telle ou telle pathologie. Donc on a peut-être là un éclairage sur certains effets secondaires sur lesquels, tout seul dans son coin, on a un peu de mal.
Mais je prendrais même un exemple plus récent, là, sur la vaccination aussi.
Oui.
Parce que c'est vrai que si on avait une meilleure collecte de données en fait sur la vaccination des populations, on serait peut-être plus à même en fait de convaincre les populations à se faire vacciner, parce que les épidémies de rougeole qui reviennent, c'est aussi lié en fait à une problématique de manque de sensibilisation, de manque de confiance en fait vis-à-vis de la vaccination.
Ce que vous disiez, il y a une attente très forte des patients et aussi des autorités de santé de connaître les données en vie réelle, c'est-à-dire ce qui se passe après. Est-ce que un médicament, un dispositif médical, pour pouvoir être remboursé, il fait une étude dans le cadre d'une étude clinique, a priori. Mais après, ce qui est important, c'est de voir en vrai comment ça se passe. Et de plus en plus, les autorités de santé demandent à ce qu'il y ait des retours d'informations, des données sur comment ça se passe en vrai. Les effets secondaires, on n'a pas pu tous les voir dans l'étude clinique. Les difficultés que le patient ou que le médecin peut avoir à utiliser un dispositif médical, on ne les a pas forcément vues dans l'étude clinique. Et donc après, c'est très important de pouvoir dire, on est capable aussi d'évaluer après, une fois que c'est utilisé, et pouvoir corriger, comme vous le disiez, identifier les endroits où ça peut avoir un mésusage ou un usage non prévu, ou voilà.
Alors, je disais que le ministère actuel qui donc opte pour ce virage numérique se met à l'anglicisme puisqu'il parle d'un Health Data Hub. Donc, on est en train de mettre en place quelque chose de très important qui va réunir les données de santé qui existent aussi bien au niveau de l'assurance maladie, des complémentaires de santé, de la médecine scolaire ou d'autres approches, d'avoir le maximum de données. Alors, c'est toujours très attractif si on arrive à le mettre en place. Et c'est aussi, vous le disiez tout à l'heure, Jean-Philippe Allouzi, c'est aussi inquiétant, ça peut être inquiétant dans l'utilisation qu'on peut faire de toutes ces données. Ça pourrait être utilisé par les assurances pour assurer ou désassurer, je dirais, selon les comportements individuels qui seraient visibles ou même comptabilisés. Et puis, je dirais, ça pourrait être aussi des indications pour les grandes compagnies pharmaceutiques de faire ceci ou de faire cela.
Et puis d'où l'intérêt de le faire dans un cadre public.
Absolument. Et je rebondis avec vous, Céline Vignier, sur l'organisation territoriale de santé, telle qu'elle est proposée. Vous preniez l'exemple du dossier médicalisé, de la télémédecine qui existe depuis un certain temps mais qui a du mal à se mettre. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que aujourd'hui on a tellement peur de brusquer les corps professionnels qu'on fait appel à leur bonne volonté et à leur côté spontané de venir là où il faut aller, au lieu de l'imposer. Alors, je me comprends. Le numérique, moi à mon avis, si on attend qu'on vienne doucement, on peut refaire cette émission dans 20 ans. Si on ne prend pas des moyens, alors j'ai pas dit coercitifs, mais des moyens qui permettent pas d'avoir des alternatives, je vois pas comment on va avancer. Parce que c'est pour les jeunes, ok, mais les jeunes, ils vont prendre 10 ans d'études et puis et plus. Pour les anciens, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, on peut faire des mélanges vieux-jeunes, d'ailleurs. C'est très agréable pour les uns comme pour les autres. Voilà. Mais moi, je suis un peu en point d'interrogation par rapport à cette thématique.
Je suis un peu partagée, en fait, sur le sujet.
Vous aussi.
Oui.
Bon, nous sommes deux, alors, au moins.
Parce que je pense qu'imposer, en fait, ça ne marchera pas, en fait, en imposant simplement. Je pense pas. En revanche, effectivement, il faut que les acteurs se mobilisent. Et je pense beaucoup à la contagion, quand même, des initiatives, en fait, individuelles. Et on voit déjà des initiatives très fortes qui ont des impacts réels en fait sur les organisations. Je vais reprendre en fait l'exemple de la télémédecine couplée en fait à de la numérisation. Par exemple, on voit des organisations locales se mettre en place, par exemple en cardiologie, où les cardiologues en fait structurent des centres de soins qui proposent en fait à la fois en fait un pré-examen via une appli pour prescrire en fait l'examen complémentaire avant la consultation médicale spécialisée, un technicien en fait spécialisé qui fait l'acte et ensuite la consultation médicale intervient en deuxième intention et le suivi se fait en téléconsultation. Et ça, c'est tous les on retrouve en un exemple et en une organisation l'ensemble des impacts en fait de l'évolution des technologies pour le bien du patient. Parce qu'effectivement, ça évite le déplacement, ça améliore l'accès aux soins. Et pour le professionnel de santé, qui peut se reconcentrer sur certaines zones en fait, de ses compétences et procéder en fait, à certaines délégations de tâches, voire en fait, ça re-questionne aussi sur les compétences des professionnels de santé via tous les enjeux sur les pratiques avancées. Donc, moi, je pense que ces initiatives-là, en fait, elles vont aussi en fait se diffuser et profondément changer en fait l'organisation de soins sur les territoires.
Jean-Philippe, allez-y.
Oui, je voulais ajouter un petit point sur justement dans le rapport, on fait la part donc sur l'accompagnement.
Quand vous parlez du rapport,
le rapport de proposition qu'on a élaboré
et qu'on a remis au débat
et qu'on va remettre
à la ministre de la santé.
L'enseignement supérieur. On est en prime.
Oui, tout à fait.
Bon, d'accord, c'est bien.
Donc on a fait un nombre de propositions et on a fait des propositions d'accompagnement des professionnels. professionnelle, comme on l'évoquait, il y a aussi des propositions d'incitation, et notamment autour du remboursement des actes, parce qu'on voit bien que si un acte qui peut être réalisé par une machine est aussi valorisé quand, de la même manière quand il est réalisé par une personne humaine, ça c'est pas forcément incitatif. Et donc le système de remboursement, la révision des actes, qui est un sujet d'actualité, hein, puisque on en parle encore récemment, la révision des actes doit permettre d'intégrer ça, doit être suffisamment rapide et intégrer le fait que un acte qui peut être réalisé par une machine, il faut qu'il soit pas remboursé de la même manière que les actes qui ne peuvent être réalisés que par des
moins remboursés, voilà, et moins en remboursé. Contrepartie, comme le soulignait Céline, les machines, les technologies rendent possible le fait pour certains professionnels paramédicaux de faire des actes qui aujourd'hui sont réservés à des médecins. Et du coup, pour en revenir à votre problématique,
mais vous savez que la critique qui est faite, c'est qu'on a on a peur, je dis le on, c'est que les médecins deviennent des appliquants des guidelines qui seront édictés pour tout le monde, sans pouvoir en sortir et s'adapter aux médecins, que les infirmiers deviennent des robots, enfin voilà, que tout le monde se déclasse.
Eh ben, justement, nous, notre point, c'est de dire, plutôt que d'aller vers du déclassement, il faut tirer tout le monde vers le haut. Il va y avoir un déport de tâches vers les machines, ce temps libéré, il faut l'utiliser pour faire des nouvelles activités. Et en particulier pour les professionnels paramédicaux, accéder à des activités qui aujourd'hui sont plutôt réservées à des médecins. Tu donnais, Céline, l'exemple en cardiologie. La solution des problèmes de démographie médicale, c'est pas de mettre un médecin face à chaque patient. C'est d'avoir une gradation de la réponse médicale, et le fait d'élargir le spectre d'actes que peuvent faire des professionnels paramédicaux, des infirmières libérales, aidé par la technologie, est une réponse, et du coup ça permet aux médecins de se focaliser sur d'autres actes plus pointus, de passer plus de temps avec le patient aussi, et donc d'être dans une logique d'encapacitation ou de développement d'activité plutôt que de déclassement. Mais ça, c'est des choses qui s'anticipent, ça va prendre du temps pour le concevoir, pour discuter avec les professionnels, pour mettre tout ça en place, et donc il faut y réfléchir dès maintenant et non pas attendre des années en disant de toute façon la technologie se diffuse tellement lentement qu'on a encore du temps.
Non, je crois que vous avez raison. Il faut vraiment. Moi, j'ai connu le système réseau qu'on a déclaré, le système réseau dans les systèmes régionaux, mais qui était laissé à l'initiative. Alors, évidemment, on va prendre des exemples. Et vous avez pris, Céline Vigny, un exemple sur la cardiologie qui peut être très intéressant, mais qui est une goutte d'eau, une grosse goutte d'eau, dont vous pensez, avec optimisme, qu'elle va attirer tout le monde vers le haut. Et que dès demain, une fois tout le monde aura écouté cette émission, hop, il y a plein d'associations qui se font.
C'est pour ça qu'on est venu, René Frédéric.
C'est pour ça que je vous ai invité. Mais avec l'expérience des réseaux, je vois que la spontanéité se met en place, mais il faut vraiment l'incitation forte. Alors, pas la coercition, mais l'incitation forte. Le porte-monnaie en est sûrement une. Il y en a sûrement d'autres qui sont plus agréables, mais qui doit obliger à faire les choses, parce que sinon, on va avoir des décalages qui vont durer trop longtemps. C'est-à-dire qu'il y a toujours un groupe de têtes, comme dans toute entreprise humaine, et puis il y a les freins. Et donc il faut vraiment aller vite.
Mais il y a une forme de deal, là, en fait, je dirais. Ouais. Parce que c'est vrai qu'il y a la contrainte de la démographie médicale sur certaines spécialités, enfin beaucoup de spécialités. Il y a en fait l'appui, l'opportunité en fait du numérique et des innovations technologiques. Et en sens inverse, en fait, on accepte de ne pas remettre en cause la liberté d'installation. Moi, j'ai l'impression que c'est peu l'opération de la dernière chance, c'est-à-dire on donne aux professionnels de santé, c'est l'enjeu par exemple des communautés professionnelles territoriales de santé. Hein. Voilà. Il n'y a pas eu de service public territorial de santé, ça a été écarté par la ministre. On a dit on laisse l'initiative en fait aux professionnels, et c'est un peu ça. On ne remet pas en cause la liberté d'installation, mais c'est vrai que là, c'est un enjeu, c'est une incitation à s'organiser sur les territoires pour que l'accès aux soins, en fait, soit favorisé.
Oui, sauf que, je dirais, je l'ai dit d'ailleurs à la ministre, les territoires, on ne sait pas ce que c'est. C'est-à-dire que c'est laissé, là aussi, à l'appréciation de chacun, de chaque groupement, mais je dirais, c'est pas ça. Enfin, ça, vraiment, personnellement...
Ouais, mais enfin, je sais pas si on a vraiment intérêt à faire du gosse-plan non plus complètement et de faire faire en fait un découpage serré des territoires de santé.
Il faut pas croire, mais quand même, je dirais, il faut inciter à définir des contours, parce que encore une fois, les populations, et vous le savez bien, les populations sont dans des zones géographiques définies, et c'est dans une zone géographique définie qu'il faut faire une proposition qui tienne la route, pas qui circule. Enfin, il faut qu'il y ait une matérialisation.
C'est mais de plus en plus, là, en fait, on s'achemine quand même vers des territoires, c'est sûr, qui sont différenciés, parce que les problématiques
ça,
sont
pas
du tout
c'est
les
pas
mêmes.
Grave, mais au moins qu'ils aient...
En zone urbaine, en zone rurale, mais en fait, on commence quand même à donner des clés communes. Il y a des incitations financières, comme le rappelait Jean-Philippe. C'est clair quand même qu'il faut des incitations financières pour que les gens s'organisent. Et c'est aussi en fait le rôle des pouvoirs publics, et c'est ce qu'on incitait en fait à faire, et on se réjouit de ce qui se passe dans le plan virage numérique, d'avoir une vraie impulsion institutionnelle avec des institutions qui donnent les outils numériques un petit peu certifié, on va dire. Et ça donne en fait aux professionnels des orientations pour s'organiser dans un territoire et les outils pour justement faire évoluer en fait leurs pratiques. Donc là, on est vraiment au cœur d'une transition avec toutes les opportunités possibles. Reste en fait à accompagner les professionnels pour qu'ils acceptent ces évolutions de métier.
Non, mais je voulais rajouter quelque chose.
Non, je voulais dire que c'était vraiment le sens de notre réflexion, de dire qu'il faut travailler sur l'humain et accompagner l'humain, parce que c'est dire la révolution numérique, elle est trop forte et trop impactante pour se dire qu'on peut l'imposer. En fait, on ne pourra pas l'imposer. Il faut certes faire des incitations, mais il faut surtout accompagner et associer les professionnels. Dans certaines propositions qu'on fait, on dit aussi les outils doivent être développés aussi avec les professionnels. Un outil doit simplifier une pratique professionnelle. Il faut que l'infirmier, le pharmacien, il ait pu donner son avis sur la manière d'utiliser pour que ça puisse.
Je suis d'accord avec vous, mais là où je suis un peu dubitatif personnellement sur justement ce qui est proposé, c'est que d'abord il y a toujours une séparation entre le public et le privé, alors que si on définissait un territoire, c'est pour ça que je reviens là-dessus, un territoire, c'est 2 millions de personnes, on va dire, ou 500 000 quand on est en rural, ok, peu importe, c'est pas toujours égal, mais c'est défini. Un territoire géographique avec une personne, avec un nombre de personnes sur lequel il faut qu'il y ait une réponse, avec un nombre d'urgences possibles, de maternité, etc., etc., d'accord ? Et là, il faut vraiment qu'il y ait public et privé. Parce que aujourd'hui, je dirais le patient que nous sommes tous possibles, il va se faire opérer ici, il va se faire suivre ensuite, surtout avec le développement, vous le savez mieux que moi, des maladies chroniques et du suivi et la diminution de l'hospitalisation. Donc la volonté publique-privée de lier les deux. Alors je sais qu'il faut y aller avec des pincettes, il faut tenir compte de ceci, cela. Enfin, je veux dire, c'est si on fait pas ça, si on n'y arrive pas. Et pour moi, c'est les territoires qui permettent justement. Et donc, je termine et je vous laisse conclure. Le passage de la santé à l'échelle régionale me semble personnellement indispensable. La région devrait avoir la responsabilité du programme santé. À vous. Concluez.
Écoutez, juste pour conclure, vous avez parlé de l'impact des technologies. Pour nous, c'est un sujet qui n'est pas un sujet de demain, mais d'aujourd'hui. IA, robotique, numérique, c'est des sujets d'aujourd'hui. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est lire un cliché aussi bien qu'un radiologue. C'est lire une image d'œil aussi bien qu'un ophtalmologue.
Un dermatologue, n'en parlons pas.
Or, les étudiants qui commencent aujourd'hui leurs études de médecine, ils sortiront formés en 2030. Ils peuvent pas continuer, comme c'est le cas aujourd'hui, à être formés comme l'étaient leurs collègues il y a 10 ou 20 ans, alors même que le monde dans lequel ils vont exercer à partir de 2030 n'aura rien à voir. Et donc, ces sujets-là, il faut les traiter dès aujourd'hui, c'est urgent.
Merci Mathias Dufour. Céline Vigné, un petit mot de conclusion.
Moi, je pense qu'en fait, que vraiment, il y a une opportunité via les innovations technologiques de changer en profondeur le système de santé pour éviter qu'il s'effondre aussi. C'était l'objet d'un des essais en fait de Philippe Pujol dans Marseille 2040 que vous aviez reçu. Et c'est vrai qu'on peut aussi faire de la numérisation et du numérique une opportunité pour transformer et moderniser le système de santé et pas le subir.
Très bien. Le petit mot de Jean-Philippe Alossi.
Oui, le numérique, la robotisation, l'intelligence artificielle, c'est un vrai progrès pour le patient et ça n'en sera vraiment un que si les professionnels sont préparés et sont adaptés à leur usage.
Et vous êtes prêt dans votre groupe le plus important à aider à cette transition. Merci. Exactement. D'être
Merci,
venu à France Culture. Voilà, cette émission est maintenant terminée et je dois remercier Sandrine Chaperon, Catherine Denet, Joséphine Lampréa, Dany Journeau et Tar Bouklifa qui ont participé de façon humaine, non, mais avec leur intelligence qui n'est pas artificielle, à la réalisation de cette émission. Nous nous retrouvons sur toutes les émissions de France Culture ayant trait au domaine de la santé et de matière à penser et nous continuerons cette série de modernisation du système de santé.